cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 5 octobre, l'an 2000, à Saint-Jeudard.
Nous commençons aujourd'hui d'entrer dans la métaphysique. Comprenez bien que normalement, le cheminement pour entrer dans le métaphysique, c'est après, je prends l'ordre génétique, pas historique, mais génétique, de notre vie. Nous commençons la philosophie en réfléchissant sur les activités de l'homme. Il faut toujours se rappeler ça. L'homme travaillant, et le travail humain est parfait dans le travail artistique. Donc le sommet du travail, c'est le travail artistique. Or, le philosophe a toujours bon goût. Il faut vous rappeler ça. Il choisit toujours l'expérience majeure. Il y a des tas d'expériences de travail. Vous avez tous ces choses. Il y a un travail qu'on fait par devoir. Je dois faire ça. Je suis obligé de faire ça. C'est le gosse qui commence à aller à l'école. Ah oui, c'est pas drôle du tout. Il a envie de prendre des sentiers différents et puis jamais arriver à l'école. Et quelquefois, ça existe même au noviciat. On redevient comme des enfants et des gosses. Je dis, oh oui, je dois travailler ma philosophie, mais oh, c'est pas drôle du tout. J'y comprends rien du tout. Alors on prend des fusions latérales. Si on avait la télévision, on ferait la télévision. Parce que la télévision, c'est les paresseux. On ne travaille pas. Le vieux grand-père, il est à côté de sa télévision. Et ça favorise la paresse terriblement. Les gens, on n'a plus à penser. Les autres pensent pour vous. C'est l'abdication de la pensée. Et l'imagination. C'est terrible, hein? Et l'humanité, ben, si ça continue ainsi, si on continue encore beaucoup, l'humanité devient esclave de l'intelligence. C'est le pire des esclavages. Et c'est ça la télévision, hein? Pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Ils abdiquent, même des religieux, ils abdiquent. J'ai toujours la vision dans mon cœur, en visitant un couvent, je ne dis pas lequel, c'est pas un couvent. Et puis le lieu le plus sacré, où toute la communauté se rassemble, à la place du tabernacle, c'est la télévision. Exactement ça. C'était même comme ça, liturgiquement. La grande liturgie, on assiste à la télévision. Toute la communauté est présente. Toute. C'est affolant, hein. Le travail. C'est pour ça que c'est très utile, la philosophie du travail. Et comme, au fond, avec la scolastique, on avait abandonné de faire la philosophie du travail, Marx nous a réveillés. Et il a fait une philosophie du travail fausse, une dialectique qui va jusqu'à supprimer Dieu. Et le travail révolutionnaire. Et le travail révolutionnaire, c'est on attaque Dieu, le patron suprême. Et on attaque tous les patrons pour qu'il n'y ait que soi-disant le bon peuple. On oublie de dire que le bon peuple de Dieu, vox Dei, vox populi, ça c'est plus ça. C'est le peuple révolutionnaire. Et ça gagne tout. Ça gagne tout. C'est extraordinaire comme le marxisme a renversé la mentalité des gens. Mais même dans la vie religieuse, on le voit, ça. La théologie de la libération. Et la théologie de la libération, elle pénètre tout. J'aurais des exemples magistrales à montrer de voir combien cette philosophie du marxisme pénètre tout. Vous voyez, la suppression de l'autorité. Et tout par le bas. À la place de commencer par le sommet, ou chercher le sommet, non, on commence par le bas. Dans le travail artistique, il y a une dignité du travail. Quand un peintre peint, son travail est quelque chose de très beau. Quand un architecte travaille, son travail est quelque chose de très beau. Et tous les autres suivent. Théologie du travail. On y revient tout le temps. Et il faut commencer la philosophie par ça. C'est ce qui est le plus concret pour nous. Le travail, c'est concret. Parce que la matière est toujours là. On travaille sur une matière. Que ce soit du bois, que ce soit du fer, que ce soit des... On travaille sur une matière. Même le chirurgien travaille sur une matière, l'homme. La matière la plus noble qui soit. Et le travail du chirurgien, à ce point de vue-là, a une noblesse extraordinaire. Je me souviens, à Taïwan, où j'ai l'expérience de l'hôpital chrétien, la directrice de l'hôpital est une religieuse chirurgienne. Et cette directrice chirurgienne, chrétienne, catholique, opère. Et je vous affirme, c'est quelqu'un. Et elle sent du labeur, et elle sait que son labeur, son travail, c'est un travail extraordinaire. La matière, c'est l'homme. Vous voyez, regardez toujours, ce qui est très curieux, hein, c'est... La cause matérielle dans le travail joue un rôle déterminant. Autre chose est travailler le bois, autre chose est travailler le fer. Parce que si vous travaillez le bois comme le fer, il n'y aura plus de bois, il sera brûlé. Vous travaillez le fer avec la forge. Et vous ne mettez pas le bois dans le feu pour pouvoir le travailler. Hein. Diamétralement opposé. Vous regardez l'homme dans sa responsabilité morale. Son action, il en est le maître. Dominium, il en est le maître. Et c'est dans l'amour d'amitié que la responsabilité est la plus grande. Puisqu'on a la responsabilité d'un ami, d'un homme. Et c'est là où l'expérience est la plus forte. Au point de vue expérience particulière, voyez, le travail, l'amitié, deux grandes expériences. Et typiquement, très très différente. Quand l'expérience du travail est trop grande, le point de vue de la responsabilité suit le travail. Alors que l'expérience de la responsabilité est indépendante du travail. L'amitié. L'ami, il existe. Ce n'est pas l'expérience de façonner son ami, de transformer son ami, qui me donne l'expérience de l'amitié. C'est l'inverse. C'est le respect que j'ai de mon ami, qu'il puisse être parfaitement lui-même dans ce qu'il a de plus grand, de plus noble. C'est ça que l'ami, il respecte l'ami. C'est tout à fait différent comme expérience. C'est deux types d'expériences qui commandent toute la philosophie. Une philosophie réaliste est commandée par ça. C'est deux expériences, l'expérience artistique, l'expérience de l'ami. Bon, ça, c'est philosophie pratique qu'il ne faut jamais abandonner. Troisième expérience, l'expérience de l'homme communautaire. En communauté. Or, l'expérience de l'homme communautaire, c'est l'expérience politique. Le roi qui commande son pays. Et c'est dans la royauté que l'expérience politique est la plus forte. Parce que c'est là où on a du personnel. Dans l'expérience de la démocratie, le point de vue politique est beaucoup moins fort. Et c'est ce qu'on voit du reste. Parce que les démocraties... Oh, c'est pas très beau à regarder les fins de démocratie, les dégradations de démocratie. C'est toujours en face de l'argent que capitulent les responsables. On voit qu'ils étaient injustes. La séduction de l'argent a perdu ces hommes politiques. Alors qu'un roi a une dignité politique. Il faut regarder ça dans Platon, hein. Le philosophe roi. Platon a voulu que les deux soient unis, hein, pour montrer que la royauté dans le roi, pour Platon, indépendamment des opinions politiques, regarde au point de vue philosophique, l'expérience type. Voyez. C'est un premier travail très simple, pré-philosophique, humain. Quelles sont les expériences types ? D'avoir une philosophie profondément humaine. Elle est réaliste parce qu'elle est humaine. Mettez-vous bien ça dans la tête, hein ? Une philosophie réaliste est une philosophie humaine. Et c'est celle-là qu'on veut. On n'a pas besoin d'autre chose. Les idéologies ne sont pas des philosophies humaines. Tandis que ça, c'est une philosophie humaine. Les trois grandes expériences qui font que toute la philosophie repose sur cette anthropologie. L'homme travailleur, c'est l'homme qui transforme le milieu dans lequel il est. Vous voyez, cette salle, hein, elle transforme le milieu dans lequel on est. Si on n'avait pas cette salle, on aurait des tentes. Et la tente est la première transformation. Parce que c'est déjà quelque chose. plutôt que de travailler en plein air. N'est-ce pas ? On travaille dans un abri. Il peut faire un temps très mauvais, on est à l'abri. On travaille. Certaines joies de travailler quand on voit l'ouragan à l'extérieur et que ça tient. Et en fait, je travaillais paisiblement. Alors que si on était dehors, on n'aurait qu'un seul souci, c'est d'essayer de lutter contre l'intempérie. La première chose, c'est que l'homme construit sa boutique pour qu'il puisse travailler l'abri. L'homme, ensuite, devient l'abri de l'autre homme, lui-même, le temple de l'ami. Dans l'amitié, c'est ça ce qui est d'extraordinaire, c'est que vous donnez à l'ami une possibilité de repos. Le repos. Le repos n'existe que chez le vivant. Et il n'existe que dans l'amour d'amitié. Et c'est l'amour d'amitié qui permet le repos. J'arrête le travail. Je suis avec mon ami. Laissez-moi tranquille. Je suis avec mon ami. C'est plus que le travail. J'aime. L'expérience d'un amour spirituel. Et puis, troisième expérience, c'est que je coopère. Toute la philosophie politique repose sur la coopération. Je coopère. Quand on ne sait pas coopérer, on ne sait pas le sens du politique. Le sens du politique, c'est commence par la coopération. Et cette expérience très simple de la coopération. Dans tous les domaines. On coopère, mais d'un instant, on coopère comme un requin. Pour être un requin, il faut nécessairement qu'il y ait un autre avec qui on coopère. Mais on coopère si bien avec lui qu'on le mange. C'est la coopération parfaite. Hein. On ne peut pas aller mieux que ça. Ensuite, la philosophie va dépasser le point de vue immédiatement pratique et recherche la vérité. Dès le début, on cherche la vérité. On cherche la vérité de l'homme travaillant, la vérité de l'homme respectueux de l'autre, la vérité de l'homme coopérant. Mais il y a quelque chose de nouveau. Je peux chercher la vérité pour elle-même. Ah, ça, c'est un passage extraordinairement important. Le passage du point de vue pratique à un point de vue qu'on dit théorique. Mais théorique, c'est-à-dire contemplatif. On cherche la vérité pour elle-même. Je ne cherche pas la vérité pour transformer une matière, je cherche la vérité pour être moi-même ce que je dois être. Mon intelligence a besoin de la vérité. Et c'est un besoin plus impératif que le pain, que la nourriture. C'est un besoin plus impératif parce que mon intelligence est plus vivante que mon corps, que ma main, que mes pieds. Mon intelligence veut son bien. C'est l'intelligence qui cherche la vérité pour la vérité. C'est l'intelligence qui veut son bien. Ça, il faut beaucoup insister là-dessus. pour comprendre l'envol. Vous savez bien cette expérience quand on est, quand on prend l'avion, l'avion continue jusqu'au moment de l'envol. Et il y a un moment très particulier, on quitte terre. Bien, dans la recherche de la vérité pour elle-même, il y a ça. Jusque-là, la matière était toujours très présente. Une matière très différente pour le travail et pour l'amitié. Pour l'amitié, l'ami comme ami, c'est l'autre, c'est la matière nécessaire, très spirituelle, très transformée, que je respecte. Et je respecte l'ami plus que n'importe quelle autre matière. Je ne veux pas l'abîmer. Je veux qu'il reste vraiment lui-même. Je décolle pour chercher la vérité pour la vérité. C'est très important parce qu'il y a certaines personnes qui ne décollent jamais. Il y a des avions qui ne décollent jamais. Alors il recommence à tourner déjà. Il y a un moment où l'intelligence est capable de chercher son bien, la vérité, où je respecte la réalité d'une façon telle que je ne veux pas la transformer. Je veux la regarder pour elle-même. C'est ça, rechercher la vérité pour la vérité. C'est ne pas modifier le terrain et le respecter et le comprendre en montrant que ça a une signification. Cette première recherche de la vérité pour la vérité, c'est ce qu'on appelle la philosophie de la nature. C'est évidemment quelque chose de très important de comprendre le feu, de comprendre l'air, de comprendre l'eau, de comprendre la terre. À Fribourg, j'avais fait un séminaire un peu extrinsèque avec un physicien, un biologiste, un artiste, pour se demander si la philosophie de la nature, qui est tellement troublée par la physique moderne, certains disent la physique moderne renverse, il n'y a plus de philosophie de la nature. Pas du tout. L'eau est l'eau. C'est pas parce que vous l'analysez autrement que ça change. L'eau. L'homme n'a pas fait l'eau. Jusque maintenant, je n'ai jamais rencontré un homme qui avait fait l'eau. L'eau, l'air, la terre, la pierre. Toute la philosophie de la nature repousse sur les éléments. Et les anciens avaient un tel sens des éléments que le ciel, c'est-à-dire les étoiles, leur apparaissait comme une matière tout à fait particulière. Une matière incorruptible. Maintenant, nous savons que c'est une matière corruptible. C'est d'autant plus beau, je trouve. c'est d'autant plus beau de considérer que la philosophie de la nature s'étend aux étoiles, aux astres, au soleil, à la lune. Qu'est-ce que ça signifie ? La nature. La nature, je la prends dans le feu. Il y a une nature spéciale, un feu. Les quatre éléments. Et on avait fait cette étude, alors, à Fribourg, ensemble, pour voir que l'étude des quatre éléments repose sur la connaissance que nous avons grâce à nos sens et aux sensibles propres, qu'on évacue dans toutes les sciences modernes. Et ça, c'est très important de regarder qu'il y a quelque chose dans la nature qui est unique. Je me souviens, ce professeur de Laval, Thomas Déconinck, qui est un Belge, mais qui enseignait à Laval, au Canada, à Québec, et qui venait dans une année sabbatique en Europe retrouver son pays. Et alors il me disait, c'est lui qui m'a dit ça, il me disait, quand je vais dans une université, on dit, quel est votre travail? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Alors je leur dis, je cherche à savoir ce que c'est que l'eau. Alors je vois la tête des gens, il est complètement fou. Je cherche ce que c'est que l'eau. C'est tellement mystérieux, l'eau. Je cherche à savoir ce que c'est que le feu. L'expérience du gosse, la première fois qu'il a pris une allumette, qu'il a frottée, il y a une flamme. Cette expérience extraordinaire, je me rappelle toujours ça parce que c'est tellement joli. Guy de la Rigaudie, le grand scout devant l'éternité, Guy de la Rigaudie va raconter à l'égard d'un Russe émigré qui est entré chez les Dominicains, il n'est pas resté du reste, mais entré chez les Dominicains, qui était un scout merveilleux. Alors, Guy de la Rigaudie, avec une troupe de routiers, il était en retard, selon ce qu'il avait prévu. Et alors, par le fait même, il a donné à chacun sa spécialité. Et puis lui, ce brave Russe, sa spécialité, il était toujours premier dans les feux. Alors, il lui dit, alors fais un feu, hein, un feu. Numéro un, ce soir. Très bien, il va à tous les autres. Puis, au bout d'une demi-heure, il vient auprès de ce cher ami. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit avec deux silex, frottant les deux silex, pour faire jaillir l'étincelle. Et donc le feu, c'était les deux silex. Alors il a répondu, mais tu m'as dit un feu numéro un, donc il faut le prendre à la source. Les deux silex qui se frottent, il y a une flamme. Et c'est pas commode à la capter, parce qu'il y a une flamme seulement. Alors, il l'a reconnu, il a dit, ah c'est bien, c'est là. Oui, le philosophe, il cherchait le feu à la source. Qu'est-ce que c'est que le feu ? Et puis après, on se pose la question, qu'est-ce que c'est que le vivant ? Et le vivant, ah oui, quand quand il s'agit de la philosophie de la nature, l'homme est dépassé par les éléments. Hein. Le feu a une noblesse extraordinaire. Ce n'est plus la nature, c'est le vivant. C'est toute la philosophie de la vie. Et dans l'homme, on a une synthèse merveilleuse de la vie végétative. Il est comme un arbre. L'homme est sensible. L'homme est intelligent. Et il est dans le monde physique, il y a en lui une nature. Il n'est ni le feu, ni l'air, ni la terre, ni l'eau. Il est la synthèse de tout ça. Il y a du feu en nous. Et de l'air, synthèse, vie végétative. Pour que la vie vienne, il faut ce mixte. Et puis, en dernier lieu, qu'est-ce que c'est que l'être ? Il est. Radicalement, l'homme n'est pas seulement un vivant, il est. L'homme n'est pas seulement l'intelligence, il est. Et l'être aboutit dernière étude. Et c'est vrai, c'est la dernière étude que je fais au point de vue philosophique. J'entre en métaphysique. La philosophie, la métaphysique, le mot métaphysique, ne l'oubliez jamais, c'est un nom donné par les bibliothécaires. Aristote n'emploie jamais métaphysique. Il emploie le mot philosophie première. Et au fond, il vaut mieux employer philosophie première. Parce que la métaphysique, on l'a battue en brèche. Heidegger. Heidegger prétend qu'il a dépassé la métaphysique. Et là, il parle de l'ontologie fondamentale. Aristote emploie philosophie première. Philosophie première parce que c'est la philosophie qui peut seule découvrir l'être premier. L'être premier, l'être qui ne dépend d'aucun autre être et qui est lui-même, parfaitement lui-même dans son être. Je ne suis pas moi-même dans mon être, je suis un vivant. Il y a un moment où ma vie va décliner, il n'y aura plus que mon être. Quand on meurt, l'expérience de la mort, nous ne l'avons pas, hein, mais quand on meurt, heureusement que l'être existe, hein, pour que la vie disparaisse, mais ce n'est pas le néant. Il y a quelque chose qui reste. La vie est brisée, mais il reste quelque chose. L'être. L'être, c'est fondamental, c'est premier, c'est ultime. Alors, le mot métaphysique a été donné par les bibliothécaires, parce que les écrits d'Aristote avaient été perdus. Et alors on a découvert tous les livres physiques, puis après les livres physiques, quelque chose qui vient après, métaphysique. Ce qui vient après les livres physiques. Et dans les livres physiques, il y avait les êtres purement physiques, et puis les êtres physiques et vivants. Et puis, métaphysique, après le monde physique. En réalité, on devrait dire ce qu'Aristote dit, philosophie première. La philosophie première, c'est celle qui regarde l'être. Ce qu'est l'être. C'est ce qui est le plus difficile à saisir, parce que c'est ce qui est le plus fondamental. L'être, pour nous, est caché par l'intelligence, il est caché par la vie, il est. Il est ce qui est au-delà du vivant, ce qui est au-delà de l'esprit, ce qui est. C'est un au-delà. Le méta, il doit se traduire au-delà. Au-delà du vivant, au-delà du physique, il est. On a donc cette étude particulière, spéciale, dans laquelle on va entrer. Nous allons entrer dans ce domaine très particulier, qui est le domaine de l'être, que nous portons en nous, hein. Nous sommes. Quand je dis je suis, je ne suis. C'est au-delà du vivant. C'est au-delà de l'intelligence. C'est ce qui résiste à tout, l'être. Ça résiste à tout. Et c'est pour ça que c'est difficile de le saisir, hein. Saisir le point de vue du vivant. Oh, ça va très bien, ça. Mais saisir l'être dans le vivant. Dans le vivant qui est vous, qui est moi. Saisir l'être. Et l'être pénètre dans le vivant et pénètre dans l'intelligence. Mon intelligence, elle existe. Ma vie, elle existe. Mon être, qu'est-ce qu'il est ? C'est l'œcuménisme radical avec notre monde physique. Il est. Notre monde physique, il est. Un arbre existe. Une pierre existe. Je suis. Donc, c'est l'œcuménisme le plus radical, le plus foncier, ce qui est commun à travers tout ce que je vois. Et c'est pour ça que c'est si difficile à saisir, hein, parce qu'il échappe tout le temps. Je n'ai jamais rencontré l'être. Je crois que ce serait assez curieux de rencontrer l'être. Je ne rencontrerai l'être que quand je verrai l'être premier. Je n'ai jamais rencontré l'être. J'ai rencontré des vivants, j'ai rencontré des êtres en devenir, mais rencontré l'être. Ah, c'est curieux. Je rencontre l'être quand je dis « ceci est ». Ceci est. Je me souviens, quand il y avait des thèses en Sorbonne de certains de nos frères, le jury disant, j'assistais, il me regardait et puis il interrogeait. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par votre jugement d'existence ? Cet homme faisait partie d'un jury philosophique et ne savait même pas ce que c'était que ceci est. Non, il savait pas. Qu'est-ce que ça veut dire ceci est ? C'est trop simple, ceci est. C'est trop simple pour être philosophique, pour que ce soit compliqué. Ceci est, c'est au-delà de la logique. Ceci est, l'être ne respecte pas la logique. Il est. La logique, c'est l'homme. C'est mon esprit qui fait la logique. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de la logique. Ah. C'est pour ça que j'ai beau faire de la logique indéfiniment, je rencontrerai jamais Dieu. Je rencontrerai l'homme, un homme logicien. Ce n'est pas logique ce que vous dites. Hein ? Quand vous dites ça à quelqu'un qui discute avec vous, c'est contradictoire ce que vous dites. C'est pas logique. Et lui, s'il tient très fort, il dit, mais c'est la réalité. C'est curieux ce dépassement de la logique par ceci est. C'est très radical, ceci est. On s'arrête à ça. Le philosophe s'intéresse à ceci est. Il s'intéresse énormément à ceci est. Et en réfléchissant sur le ceci est, il comprend qu'il ne peut pas l'expliquer par la vie. Je ne peux pas expliquer l'être par la vie. Pourquoi ? Parce que le vivant est beaucoup proche de moi. Le vivant, je le comprends très bien. J'aime le petit chien, c'est un vivant. Et ça m'amuse de voir ce petit chien. C'est un vivant qui aboie. C'est curieux. Le vivant aboie. Est-ce que l'être aboie ? Non, non, non. Il est. Ah, il est. Il échappe à ça. Le vivant, ben, il se meut, le vivant. Oui, l'être, qu'est-ce qu'il est ? Difficile à saisir, hein ? Ça a été la grande discussion des premiers philosophes en Grèce. L'être et le devenir. On revient à ces distinctions aujourd'hui. L'être et le devenir. Tiens, c'est curieux. Oui, parce que c'est tout à fait fondamental. Notre monde physique, il devient. Le physicien, il atteint le devenir. Ce qu'on atteint, ce qu'on expérimente, c'est toujours le devenir. Il bouge tout le temps. Il devient. Il est. L'être est dans le devenir. Le devenir naîtrait, ne serait pas s'il n'était pas. C'est différent de voir le devenir de l'être et de voir son être. C'est une recherche très fondamentale, très radicale, mais importante, parce que mon intelligence ne peut atteindre l'être premier, Dieu, qu'en étudiant ce qu'est l'être. Le Saint-Père a parfaitement raison de dire que tant que l'intelligence n'a pas atteint ce que l'être, elle ne peut pas être servante de la foi. Seule la philosophie de l'être, la philosophie de ce qui est tout à fait radical et de ce qui a d'ultime, peut me permettre d'atteindre l'essence de Dieu. Alors, vous voyez, on n'a pas commencé la philosophie de l'être en disant ça, hein. Aristote n'a jamais dit ça. Mais nous, qui sommes chrétiens, nous, qui voulons être vraiment chrétiens, c'est-à-dire comprendre ce que le Saint-Père nous dit, ça c'est être chrétien quand même. Dans la philosophie, dans l'encyclique, vous savez, faire une encyclique sur l'être, il n'y a pas beaucoup de papes qui ont fait ça, hein. C'est quelque chose d'assez curieux de devoir faire une encyclique sur l'être. La philosophie de l'être, elle existe, elle est même indispensable. Si vous ne faites pas de philosophie sur l'être, vous ne pouvez pas être serviteur du croyant. Le croyant, c'est celui qui croit que Dieu existe. Le croyant, c'est celui qui reçoit la parole du Dieu créateur. Et le Dieu créateur, c'est celui qui, à partir de rien, pas à partir de la matière, à partir de rien, pas à partir de l'ami, à partir de rien, fait quelque chose, crée l'âme humaine. À partir de rien, ex nihilo. Pour comprendre ce que ça veut dire, ex nihilo, il faut savoir ce que c'est que l'être. Le rien, c'est le non-être. Le rien, ce n'est pas le non-vivant. Le rien, ce n'est pas le nom intellectuel. Le rien, c'est celui qui n'est pas. Comment voulez-vous comprendre Dieu créateur si vous ne comprenez pas ce que c'est que l'être ? Ex nihilo, à partir du non-être. Même Aristote, hein, dit que le rien, c'est le non-être pris d'une façon absolue, comme être. Et donc, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas saisir ce qu'est le Créateur, ex nihilo, si je ne sais pas ce que c'est que l'être. Et notre pape montre que seule une philosophie de l'être peut être au service du croyant. Le croyant, c'est celui qui pose ce jugement. Dieu, créateur du ciel et de la terre. Vous dites ça dans votre credo, hein ? Le croyant, c'est celui qui croit que Dieu est créateur du ciel et de la terre. Et le croyant, c'est celui qui croit que Dieu m'a parlé. Que celui qui est le créateur me parle. Que celui qui est mon créateur s'intéresse à mon intelligence qui cherche la vérité et qui vient me montrer un sentier je connais par la foi mon Créateur et je le connais comme mon Père, Créateur de mon âme et Père de mon âme. Et parce qu'il est Père de mon âme, il me montre quel est mon bonheur. C'est le rôle du Père. Le Père indique le bonheur. Où est le bonheur ? C'est intéressant et c'est important de savoir où est le bonheur. Mon bonheur, c'est de voir Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur. C'est le seul bonheur que j'ai. Le croyant, c'est celui qui sait que le seul bonheur qu'il ait, c'est de voir Dieu. C'est de voir mon Père. Autrement, je reste un orphelin. Et je cherche tout le temps, alors, où est mon Père ? Or, je ne peux vraiment coopérer avec Dieu qu'avec une intelligence qui sait ce qu'est l'être. Autrement, je ne sais pas ce qu'est le Créateur. Et je ne peux coopérer qu'avec celui qui est mon Créateur, Créateur de mon âme. Celui qui est au-dessus de la matière, il crée à partir de rien. Alors, c'est ça qui est merveilleux, c'est que grâce à la foi, l'être qui provient du Créateur est concret. L'atteint directement. Au point de vue philosophique, l'être est concret. Il n'est pas abstrait. Hein. L'être est concret, ceci est. Et ceci est, c'est toujours quelque chose qui existe. C'est toujours quelque chose de concret. Mais il implique négation du devenir, négation de l'être pour atteindre quelque chose de plus profond. Donc, au point de vue philosophique, il y a deux négations à faire pour que mon intelligence atteigne l'être. Au point de vue de la foi, mon intelligence dans la foi atteint tout de suite l'être, c'est Dieu qui est l'être premier. C'est Dieu qui me parle. C'est Dieu, mon Créateur. Et il crée à partir de rien. Mon âme, créée par Dieu, est à partir de rien. Et je crois que Dieu est le Créateur de mon âme, de mon être. Créateur de mon être, il est Créateur de tout ce qui est avec mon être, ma vie, mon intelligence. Vous voyez donc que cette recherche de la métaphysique donnée par le jugement d'existence, ceci est. Si je suis chrétien, est nécessaire. Si je suis intelligent, sans être chrétien, je vais dans la recherche de la vérité jusqu'au bout. Je ne peux pas laisser de côté cela, puisque tout repose sur l'être. tout ce qui est repose sur l'être. Ceci est. Et je dois savoir, je dois comprendre ce que ça signifie quand je dis ceci est. Au-delà du devenir, au-delà de la vie, au-delà de l'intelligence, au-delà des 3 degrés de vie, j'atteins ce qui est. Et atteindre ce qui est, c'est justement cette connaissance particulière ultime qui couronne toutes les autres connaissances. Alors, il faut bien comprendre, parce que c'est ultime, c'est en même temps premier. Je peux vraiment étudier la métaphysique, la philosophie première, ayant étudié toutes les autres parties de la philosophie. Mais je peux aussi étudier la philosophie première tout de suite par mon jugement d'existence. Mon jugement d'existence n'est pas dépendant de ma connaissance du devenir, de ma connaissance de la vie, de la connaissance de l'intelligence. Mon jugement d'existence est premier. C'est la vie même de mon intelligence. Mon intelligence s'éveille par le jugement d'existence. Ceci est. Seule mon intelligence atteint l'être.